qui est si précieuse à nos cœurs. Elle nourrit notre foi, elle nous instruit dans la vérité. Et ce matin encore, nous voulons plonger nos regards dans cette parole. Je vous invite à lire deux textes d'introduction que nous trouvons. Le premier texte, on en lira d'autres au cours de notre partage ce matin, dans l'épître de Paul à Tite. Épître de Paul à Tite, chapitre 3, à partir du verset 8. Tite, chapitre 3. Cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Nous allons maintenant, juste après, dans l'épître de Paul à Philémon, il y avait une église dans la maison de Philémon, et donc l'apôtre Paul ici écrit à Philémon une courte épître qui est assez intime d'ailleurs, et au sujet d'un personnage qui s'appelle Onésime. Et j'aimerais juste lire à partir du verset 8, il n'y a qu'un chapitre. « C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence au nom de l'amour que je t'adresse une prière. Étant ce que je suis, Paul, vieillard, et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui est maintenant utile et à toi et à moi. Amen. » Alors, je suppose que les enfants qui suivent l'école du dimanche savent ce que le prénom Onésime veut dire. On le voit de temps en temps à l'école du dimanche. Non ? Onésime, c'est un prénom qui veut dire utile. Un prénom qui veut dire utile. Et lorsque l'apôtre Paul parle d'Onésime et qu'il dit qu'il a été inutile et utile, on a l'impression que l'apôtre Paul use d'un jeu de mots. À ce moment-là, il parle de Onésime, qui veut dire utile, pourtant il était inutile. Mais maintenant, il est devenu utile. Donc ça veut dire qu'avant, il ne portait pas bien son nom, mais maintenant, il porte bien son nom. Et ce matin, j'aimerais avec vous parler de l'utilité en partant de cet exemple d'Onésime. Il est important que nous soyons utiles les uns et les autres. Nous avons vu dans le premier passage que certaines choses sont inutiles et que d'autres sont utiles. L'apôtre Paul, parlant de la pratique des bonnes œuvres, dira que c'est utile aux hommes. Et puis, parlant de certaines choses, notamment les généalogies, parce que certains étaient très à cheval sur les généalogies, il fallait connaître sa généalogie, et il se glorifiait ainsi d'être les descendants de tel ou tel personnage. Et puis, il y avait des querelles relatives à la loi de Moïse, etc., etc. Il dira, toutes ces choses-là sont inutiles. Donc il y a un constat, et c'est vrai qu'il y a certaines choses qui sont utiles et d'autres qui sont inutiles. Et nous voulons, rechercher la volonté du Seigneur afin que nous puissions accomplir ce qui est utile, car il faut bien l'admettre qu'il y a certaines choses, en tout cas je l'admets pour moi, il y a parfois des choses que j'ai faites, bon, il faut que je reconnaisse que ça n'a pas été vraiment utile. Et puis d'autres qui peut-être sur le moment ne me semblaient pas utiles ne se sont révélés dans le temps utiles. Car en fin de compte, sur l'utilité d'une chose, nous avons certains parfois, nous nous basons sur certains critères de valeur, sur une certaine peut-être productivité. Est-ce que ça produit quelque chose ? En tout cas, on va voir, et c'est important de le voir, que certaines choses qui nous semblent, nous, inutiles, le sont aux yeux de Dieu et vice-versa. En tout cas, nous savons que Dieu nous invite à l'utilité. On peut noter, par exemple, cette parabole des talents. Et à la fin, le maître dit le serviteur inutile, c'est-à-dire un serviteur qui n'a servi à rien. Le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du démon, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. L'apôtre Paul dit par ailleurs aux Corinthiens, au chapitre 6 de sa première épître, verset 12, « Connaissez cela, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile, effectivement. » Donc après tout, on peut tout faire, tout est permis. Mais c'est à nous de nous placer aussi face à la parole de Dieu, peut-être face à nous-mêmes aussi, faire un petit peu le bilan de nos actions, le bilan de notre vie, et puis surtout face au Seigneur, est-ce que cela est vraiment utile ? Tout est permis, mais tout n'est pas utile, comme nous l'avons vu tout à l'heure dans ce premier texte. Et c'est vrai que nous avons le désir, les uns et les autres, que ce que nous faisions soit utile parce que peut-être on n'aime pas perdre du temps, parce qu'on voudrait que cela produise quelque chose. On veut que notre vie ait du sens, on veut que notre service pour le Seigneur ait du sens. Mais l'utilité aux yeux de Dieu n'est pas forcément ce que nous pensons, comme je l'ai déjà dit. Nous l'avons lu, je crois, une ou deux fois ce texte, lorsque nous avons fait notre série sur l'Église dans le psaume 127. Celui qui bâtit une maison, si ce n'est pas l'Éternel qui bâtit, qu'est-ce qui se passe ? C'est en vain. Ça n'a servi à rien. Quand bien même il s'est fatigué, quand bien même il s'est levé tôt le matin, il s'est couché tard le soir, c'est en vain. Le Seigneur en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Donc nous voyons déjà avec ce psaume que certaines choses que nous pouvons faire, c'est en vain. Quand bien même on se serait fatigué, on se serait usé, pour le faire, si l'Éternel n'est pas, j'allais dire, dans l'affaire, si ce n'est pas l'Éternel qui le fait, c'est en vain. Sans le Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Revenons à notre exemple d'Onésime, on va en citer d'autres tout à l'heure. Mais à quoi pouvait être utile Onésime ? Il faut quand même se replacer dans le contexte de la rédaction de cette épître. L'apôtre Paul est âgé, il dira même « je suis un vieillard ». Il est en prison. Et voilà qu'arrive Onésime. Onésime, on ne sait pas exactement ce qu'il a fait, mais quand on lit cette épître, il semble que Onésime ait fait quelques entorses, j'allais dire, pour le moins, à certaines règles. Il semblerait que Onésime, en tout cas, c'est selon ce que dit l'apôtre Paul, ait fait un tort à son maître, à Philémon, au verset 18, il dit « S'il t'a fait quelque tort, ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. » Donc on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais Onésime était au service de Philémon, et on pourrait se dire, peut-être à ce moment-là, rendant service à Philémon, il était utile, mais en fin de compte, il était inutile à Philémon. Et en plus, probablement qu'il a commis quelques extorsions chez son maître et il a dû s'enfuir de cette maison et il s'est retrouvé en prison, non pas à cause de sa foi, mais il s'est retrouvé en prison à cause de certaines mauvaises actions qu'il a fait et l'apôtre Paul dit qu'il l'a engendré dans les chaînes. Donc il s'est retrouvé dans la même cellule, dans la même prison que l'apôtre Paul et là, au contact de l'apôtre Paul, il entend l'évangile et il se convertit à Jésus-Christ. Alors moi, j'aime bien comment le Seigneur dirige les choses, hein. C'est extraordinaire. Hein. Alléluia. Et Onésime était au service d'un maître chrétien. Ce maître-là, Philémon, avait une église dans sa maison. Donc ce n'est pas la première fois que Onésime entend parler de l'évangile. Il était dans une maison où il y avait une église, son maître est converti. Et on sait le zèle des premiers chrétiens, donc Onésime a entendu l'évangile, il fuit de cette maison, il se retrouve en prison avec encore un chrétien. Le Seigneur, quand il cherche quelqu'un, il ne le laisse pas tranquille. Hein. Alléluia. Merci Seigneur. Et là, au contact de l'apôtre Paul, cet homme, Onésime, va se convertir. Mais qu'est-ce que ça change dans la vie de Paul ? Pour que Onésime, qui était inutile à Paul, puisqu'il lui dira au verset 11, autrefois t'as été inutile, mais qui maintenant est utile, et à toi et à moi. Onésime, qui était inutile à tout le monde, maintenant se trouve être utile. À quoi pouvait être utile Onésime dans la prison aux côtés de l'apôtre Paul ? Peut-être tout simplement, et ça c'est précieux, tenir compagnie à l'apôtre Paul. Parce que c'est quand même difficile de se retrouver en prison seul. Et là, l'apôtre Paul a maintenant un frère en Christ avec qui il peut se tenir dans la prière, avec qui il peut partager certaines choses. Les journées sont peut-être moins longues parce qu'il a quelqu'un avec qui parler. Tout simplement, l'apôtre Paul est très âgé, c'est un vieillard, et il a là, aux côtés de lui, Onésime qui peut être un soutien. On voit que Onésime, donc, est devenu utile à l'apôtre Paul, utile aussi à Philémon, puisque eh bien, il va y retourner, utile à l'œuvre de Dieu. J'aimerais citer quelques autres exemples avant d'aller plus loin dans notre partage de ce matin. Le premier autre exemple que je prendrai, c'est celui que nous connaissons bien de la pauvre veuve dans les évangiles. Une pauvre veuve qui passe totalement inaperçue. Elle est là, elle vient dans le temple, personne ne la remarque, si quelqu'un la remarque, Jésus. On remarque les gens riches qui mettaient beaucoup d'argent dans le tronc, et d'ailleurs ils faisaient en sorte qu'on les voit, d'ailleurs, hein, quand ils mettaient. Mais elle, elle passe totalement inaperçue, et il nous est dit qu'elle avait mis 2 petites pièces dans le tronc. Entre nous, franchement, ça ne changeait pas grand-chose, quasiment rien, à la trésorerie du temple. Ça n'aurait pas manqué à la trésorerie si ces 2 petites pièces n'y avaient pas été. Comprenez ? C'était pas utile, ce qu'elle faisait. Humainement, j'allais dire, ce n'était pas utile. Elle aurait pu s'acheter un pain, elle a donné... Jésus le dira, il le précise, elle a donné tout ce qu'elle avait, tout ce qui lui restait, tout ce qui lui restait. Peut-être nous, humainement, on aurait dit, ça aurait été plus utile. Si elle l'avait gardé pour elle, elle aurait pu s'acheter peut-être un petit repas avec cela et manger. Mais elle l'a donné. Et je suis convaincu que le Seigneur qui est fidèle n'a pas abandonné cette pauvre veuve. En tout cas, ce qu'elle a fait a été beaucoup plus utile que tout ce que les autres pouvaient faire. À tel point que Jésus la cite en exemple, à tel point qu'aujourd'hui encore, 2000 ans encore après, on parle d'elle. On parle d'elle. On la cite en exemple pour sa consécration, pour sa foi, pour sa générosité, pour l'œuvre de Dieu. Même si, humainement, ça ne semblait pas utile. On voit qu'aux yeux de Dieu, ce qu'elle a fait a été extrêmement utile. Prenons d'autres exemples. Là, on va peut-être lire le texte dans Marc, chapitre 14, verset 3. Marc 14, verset 3. Comme Jésus était à Béthanie dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum ? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine ? Elle a fait une bonne action à mon égard. car vous avez toujours les pauvres avec vous et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. Mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous le dis en vérité, partout la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier. On racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Judas Iscariot, l'un des 12, alla vers les principaux sacrificateurs afin de leur livrer Jésus. Après l'avoir entendu, ils furent dans la joie et promirent de lui donner de l'argent. Et Judas cherchait l'occasion favorable pour le livrer. Nous sommes là en présence d'une femme qui va entrer dans la pièce où il y a Jésus qui est à table chez Simon le lépreux. Et là, elle va renverser, elle va verser un parfum de grand prix, 300 deniers. Et ce qu'elle a fait a indigné ceux qui étaient présents là. Non seulement ça les a indignés, mais ils se sont irrités contre ces femmes. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est du gaspillage. Peut-être aurions-nous eu la même attitude que ces personnes qui se sont indignées et irritées face à cette femme. C'est du gaspillage, c'est totalement inutile, et non seulement c'est inutile, mais c'est gaspiller de l'argent. Avec ça, imaginez-vous, tous les pauvres qu'on aurait pu aider, tout ce qu'on aurait pu faire avec ces 300 deniers, ça aurait été utile. Utile ? Pas utile. Le Seigneur ne voyait pas les choses comme ça. Et ce qui est important pour nous, c'est comment le Seigneur voit les choses. Ça, c'est important. Le Seigneur ne voyait pas les choses ainsi. Ça ne veut pas dire que le Seigneur ne se mettait pas en souci des pauvres. Bien au contraire, il se met en souci des pauvres. Puisque, par exemple, il y a eu la multiplication des pains et des poissons. Mais Jésus va dire quelque chose d'important à ce moment-là. Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours les pauvres avec vous et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez, mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu, elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture, et elle sera citée en exemple, en témoignage. Je vous le dis, en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de ce que cette femme a fait, ce qu'elle a fait. Donc, on voit que son geste a été utile pour le Seigneur et utile pour son œuvre. Utile, même si à ce moment-là, les autres pensaient que c'était du gaspillage, que c'était totalement inutile. Ce que nous faisons peut paraître inutile aux yeux des autres. Je me rappelle lorsque j'ai décidé, suite à l'appel de Dieu, d'entrer à plein temps au service du Seigneur et d'aller à l'école biblique, certains m'ont dit « Mais tu es en train de gaspiller ta jeunesse, là. » Et comment on peut voir les choses, ce que l'on fait peut être interprété par les autres comme étant totalement inutile. Certains voyaient ça comme gaspillage des années de jeunesse, et puis on pouvait voir ça aussi comme une consécration. Et ce que nous pouvons faire les uns et les autres est peut-être parfois mal perçu, même au sein même de l'œuvre de Dieu. On pourrait dire, mais c'est une perte de temps, tout ce que l'on fait, c'est une perte d'argent, peut-être. Peut-être pas. Peut-être humainement, il y a une perte d'argent, peut-être humainement, il y a une perte de temps, mais peut-être pas. Il faut voir à la longue ce que cela peut produire, et en tout cas, on voit que ce que cette femme a pu faire a produit quelque chose, un exemple pour notre foi. Certains de nos aînés se demandent parfois pourquoi ils sont encore sur terre lorsque nous visitons nos aînés, lorsque nous leur téléphonons, mais je ne sais pas encore, j'ai 80 ans, mais je ne sais pas ce que je fais encore sur cette terre, j'ai 85 ans, j'ai mal partout, et pourquoi le Seigneur il me garde encore sur cette terre ? Je ne sers plus à rien, je suis totalement inutile à l'Église, totalement inutile pour le Seigneur, inutile pour les autres, je ne peux plus rien faire. Or, si Dieu les veut encore sur cette terre, c'est qu'il les a jugés utiles encore. Et en tout cas, il faut quand même reconnaître que nos aînés, qui peut-être à leurs yeux se sentent inutiles, tiennent l'Église fidèlement tous les jours dans la prière. Et sans la prière de nos aînés, frères et sœurs, peut-être qu'on n'en serait pas là. C'est vrai qu'à nos yeux, on ne voit pas l'utilité de certaines choses. Mais cela a un grand prix aux yeux du Seigneur. Cela a un grand prix aux yeux du Seigneur. Ce que nous sommes, ce que nous faisons dans la foi, a une portée bien plus grande que nous pouvons l'imaginer. Jésus est monté sur la croix. Il avait 33 ans. Jésus a pris le temps de former ses disciples alors que des foules attendaient. Certains auraient pu dire, mais c'est une perte de temps, il faut aller, il y a les foules qui ont besoin, il faut prier pour les malades, il faut leur annoncer la parole. Mais Jésus se mettait à l'écart pour former et enseigner ses disciples. On ne perd jamais de temps lorsque l'on forme des personnes. On pense, c'est vrai qu'on prend du temps pour former ces personnes, on prend du temps pour les enseigner, mais ces personnes qui sont ainsi enseignées, ces personnes qui sont ainsi formées, vont pouvoir à leur tour accomplir des choses, ils vont pouvoir faire plus de choses qu'une seule personne. Donc on décuple le temps. Jésus n'a pas perdu son temps lorsqu'il a formé ses disciples, bien au contraire. Il est mort sur la croix à l'âge de 33 ans. Certains pourrait penser gaspillage de temps. Il aurait pu y monter à 80 ans. Il aurait fait tellement de choses, beaucoup plus de choses, s'il était resté sur terre jusqu'à ses 80 ans. N'est-ce pas ? Mais le Seigneur ne voit pas les choses comme ça. Le Seigneur ne voit pas les choses comme ça. Jésus avait pu dire, « Il vous est avantageux que je m'en aille. » Comprenez, il vous est avantageux, c'est notre avantage, c'est dans notre avantage que Jésus s'en aille. Pourquoi ? Parce qu'il envoie à ce moment-là le Saint-Esprit, tant que Jésus était sur terre, le Saint-Esprit n'était pas répandu sur toute l'Église. Il vous est avantageux que je m'en aille. Merci Seigneur, il est monté sur la croix pour porter nos péchés, il est ressuscité et il nous a envoyé le Saint-Esprit, que son nom soit glorifié. Alléluia. Oui, nous voulons être utiles au Seigneur et tout commence à la conversion. Tout commence à la conversion. La conversion change tout dans notre vie. Elle a tout changé dans la vie d'Onésime. La conversion d'Onésime l'a rendu utile. Il était totalement inutile avant. Mais maintenant, la conversion a fait de lui quelqu'un d'utile à Paul et à Philémon. La conversion nous rend utile entre les mains du Seigneur, elle nous rend utile à l'œuvre de Dieu parce qu'elle change tout en nous. Elle change notre façon de voir, elle change notre mentalité, elle change notre comportement, elle change nos pensées, elle change tout en nous. Elle change notre comportement, non seulement dans l'Église, mais elle change notre comportement dans la famille, dans la société, dans notre manière de travailler au sein de notre entreprise, là où nous vivons, là où nous évoluons, ça change tout. Des ouvriers qui se sont convertis, qui peut-être avant faisaient mal leur travail, étaient paresseux, ils sont courageux maintenant. Ah, le patron, il est content. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé ? La conversion. Le Seigneur a fait une œuvre nouvelle dans les cœurs. Alléluia. C'est ce qui s'est passé dans la vie d'Onésime, c'est ce qui s'est passé dans notre vie. Nous avons été transformés. transformé par l'œuvre du Saint-Esprit dans nos cœurs, qui nous a fait entrer dans le plan de Dieu qu'il avait prévu pour chacun d'entre nous. Que Dieu soit glorifié. Amen. Alléluia. Ça aussi, c'est une conséquence de la conversion. Les conséquences de la conversion, elles sont multiples. Et ça, c'en est une et pas des moindres. Il nous faut vraiment nous rendre disponibles entre les mains du Seigneur. Lorsque Jésus est passé devant Matthieu Lévi, qui était assis au bureau des péages, il lui a simplement dit, il ne lui a pas fait un long discours, il lui a simplement dit, « Suis-moi. » Qu'est-ce qu'a fait cet homme ? Il s'est levé et a suivi aussitôt le Seigneur Jésus. Il a laissé sa table des péages et il a suivi le Seigneur Jésus. Il aurait pu rester à sa table des péages, mais il n'aurait été pas utile à ce moment-là à l'œuvre de Dieu. Mais à partir de ce moment-là, il s'est rendu utile à l'œuvre du Seigneur parce qu'il a suivi l'appel de Dieu. Lisons un autre texte dans Luc chapitre 9, verset 57. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas lieu où il puisse reposer sa tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » Et il répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir les morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé ceux de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Voilà des hommes qui n'ont pas fait ce que Matthieu Lévi a fait lorsque Jésus leur a dit, « Suis-moi », ils n'ont pas été disponibles tout de suite. Il y en a un qui a répondu, « Permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. » Ça ne veut pas dire que son père est mort ce jour-là et qu'il faut qu'il fasse ses obsèques ce jour-là. Ça ne veut pas dire ça. Dans le contexte culturel oriental, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que son père est déjà très âgé et qu'il s'attend à ce que dans les semaines, les mois, et ça peut même durer 2-3 ans cette histoire, que son père décède. C'est ça que ça veut dire dans la culture orientale. Ça peut durer un certain temps et pendant ce temps-là, où est l'appel de Dieu, cette réponse à l'appel de Dieu? Si le Seigneur lui demande de venir et de l'appeler à ce moment-là, il faut qu'il ait la foi aussi pour penser que Dieu prendra soin de sa famille. On peut trouver des excuses, mais la disponibilité et la promptitude à laquelle nous répondons au Seigneur nous rend utile. Il dira à un autre aussi de le suivre, mais un autre a dit, « Permets-moi de prendre congé de ceux de ma maison. » Là encore, ça pouvait durer. Et en prenant congé de sa maison, il pouvait tellement être absorbé, happé par la famille, qu'en fin de compte, il ne partirait plus du tout. C'est pour ça que Jésus lui dira, « Quiconque met la main à la charrue, regarde en arrière, n'est pas propre au royaume de Dieu. » Lui aussi ne sera pas disponible, lui aussi ne sera pas utile entre les mains du Seigneur parce qu'il n'est pas prompt à suivre le Seigneur. La disponibilité nous rend utile, nous rend utile. Ce qui nous rend utile, c'est aussi la piété, la sanctification. On va lire rapidement deux textes dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 21. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, et lisons bien, utile, à son maître, propre à toute bonne œuvre. Si quelqu'un se conserve pur, il sera un vase d'honneur, sanctifié, c'est-à-dire mis à part, c'est ça la sanctification, et utile. Alléluia. Merci Seigneur. Puissions-nous nous conserver purs. Encore un autre texte rapidement dans 1 Timothée chapitre 4, verset 8. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et celle de celle et de celle qui est à venir. La piété est utile à tout. L'apôtre Paul dit ça à Timothée, il dira que l'exercice corporel est utile à peu de choses. Nous sommes dans cette époque où la culture gréco-romaine est là, avec aussi un certain culte du corps où le sport a une importance. Les Jeux d'Athènes, on connaît ces choses-là. Et ça ressemble d'ailleurs beaucoup à notre époque où l'on voit l'importance du sport aujourd'hui. Il y a des salles de sport qui foisonnent partout. Le sport a une grande impact sur notre société aujourd'hui. Et tout ça, peut-être, il y a un certain culte du corps. Il faut paraître bien, il faut être musclé, peut-être. Et peut-être aussi, pour certains, c'est pour faire ralentir l'effet de vieillissement. Bon, le sport est utile. On le reconnaît. J'ai rien contre le sport. Sauf quand il prend la place de Dieu. Mais le sport est utile à peu de choses. Comprenons bien, à peu de choses. Par contre, la piété est utile à tout. Elle est même utile au corps, en fin de compte. La piété est utile à tout, elle est utile pour notre âme, elle est utile pour notre esprit, elle est utile à Dieu, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. La piété est utile à tout. Elle fortifie notre espérance et notre service pour le Seigneur. Mais j'aimerais m'attarder un peu plus sur un autre point. C'est sur l'efficacité. Je ne pouvais pas parler de l'utilité sans parler de l'efficacité. Ça va ensemble parce que si on est efficace, le sentiment qu'on va avoir, on se dit « Ah, là, j'ai été utile. » L'efficacité. L'efficacité va avec l'utilité. Et ce qui nous rend efficaces, c'est la puissance du Saint-Esprit. Je pense à ce texte de l'Ancien Testament que un en poursuivra 10, 100 et un autre 1000. On voit l'efficacité à ce moment-là de ces soldats qui étaient capables à un seul homme de terrasser des centaines, voire plus encore, de soldats ennemis. La puissance du Saint-Esprit nous rend efficaces. L'apôtre Paul dira aux Corinthiens que la manifestation de l'Esprit est donnée à chacun pour l'utilité commune. Dans Éphésiens chapitre 1, verset 19, Éphésiens chapitre 1, verset 19. Et quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force, avec efficacité. Tout ce que fait le Saint-Esprit est efficace. Et nous voulons rechercher la plénitude du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit qui va nous renouveler, qui va transformer nos mentalités, qui va nous fortifier intérieurement. Amen. Qui va nous donner du discernement pour savoir ce qu'il convient de faire dans telle ou telle situation, afin de nous rendre utiles au Seigneur et donc efficaces. Nous bénissons le Seigneur pour ce Saint-Esprit qu'il nous a communiqué. Je rappelle ce que Jésus avait pu dire, « Il vous est avantageux que je m'en aille ». Et nous voulons rechercher ça. Si nous passons à côté de cet avantage, Jésus dit « Il vous est avantageux que je m'en aille », mais si nous-mêmes, nous ne voulons pas et nous ne recherchons pas la plénitude du Saint-Esprit, nous voulons la rechercher, si nous ne le faisons pas, nous passons à côté de ce que le Seigneur veut pour nous. Servir sans Dieu, servir sans le Saint-Esprit ne sert à rien. Quand bien même on se fatigue, quand bien même on passerait des heures dans notre service, si c'est sans le Saint-Esprit, ça n'ira pas bien loin. Ça n'ira pas bien loin. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent la bâtissent en vain. Donc nous voulons rechercher la plénitude du Saint-Esprit et nous voulons rechercher à ce que la parole de Dieu puisse encore plus faire son œuvre dans notre cœur. Cette parole de Dieu dont il est dit dans Hébreux chapitre 4 verset 12 qu'elle est vivante et quoi ? Efficace. Efficace. Alléluia. Ça c'est efficace. Et si c'est efficace, ça c'est utile. Béni soit le Seigneur. La parole de Dieu est efficace, elle ne retourne pas au Seigneur sans avoir produit son effet. Ah ça, on l'aime bien. Ça, c'est un critère d'utilité et d'efficacité, bien sûr. Quand il y a un effet qui est produit, on voit que ce n'est pas pour rien. On voit que ce n'est pas pour rien. Et la parole de Dieu ne retourne pas à lui sans avoir produit son effet. Alléluia! C'est pour cela que nous voulons la recevoir pleinement dans notre cœur, afin qu'elle fasse son œuvre. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour convaincre, pour enseigner, pour instruire, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Que Dieu soit béni. Alléluia. Et comment ne pas parler de la prière fervente du juste ? Dans l'épître de Jacques, au chapitre 5, verset 16, il est dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Amen. Vous savez, on ne perd pas notre temps lorsqu'on prie le Seigneur. On ne perd pas notre temps. Même si sur le moment on ne voit rien, même si on a l'impression peut-être que nos prières ne dépassent pas le plafond, même si ça nous semble dur, on ne perd pas du temps lorsque l'on prie le Seigneur, la prière fervente du juste. Alors il faudrait s'arrêter sur chaque terme, prière fervente, il y a beaucoup de choses à dire aussi sur ça, du juste, là aussi, a une grande efficacité. Mais on ne perd pas notre temps. Je parlais tout à l'heure de nos aînés qui se tiennent dans la prière. Parfois, ils partent même, ils décèdent sans avoir eu l'exaucement de leur prière, c'est plus tard dans le temps qu'on verra les choses se produire. Il est vrai que le Seigneur peut répondre instantanément à une prière, mais le Seigneur n'est pas obligé de répondre instantanément, il peut répondre en son temps. Il peut répondre en son temps. Et ça peut demander des années, mais restons dans la foi. Alléluia. Restons dans la foi que le Seigneur agit, qu'il entend la prière de ses enfants et qu'en son temps, il fait toute chose bonne. Alléluia. Il est vrai que dans une parabole, le Seigneur dit que de nous regarder comme des serviteurs inutiles. Quand on regarde le contexte de cette parabole, quand on l'étudie bien, eh bien, on voit que c'est dans le sens que nous ne pouvons rien faire valoir devant Dieu. Nous ne pouvons rien faire valoir devant Dieu. Nous avons fait ce qui est normal de faire. Ce qui est normal de faire. Mais si nous nous mettons à la disposition du Seigneur, nous sommes entre ses mains un instrument, un vase utile. J'aimerais terminer et conclure avec un exemple que nous trouvons dans 2 Timothée chapitre 4, verset 11. 2 Timothée chapitre 4, verset 11. Verset 11, l'apôtre Paul dit « Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. » L'apôtre Paul est à la fin de sa vie, il le sait, il le dira le moment de mon départ approche. Il est emprisonné à cause de sa foi. Seul Luc est avec lui. Il dira, prends Marc et amène-le avec toi car il m'est utile au ministère. Alors c'est intéressant ce que dit Paul là, ça passe inaperçu ce verset. C'est intéressant quand on connaît l'histoire de Marc. Quand on connaît le parcours de Marc et la collaboration qu'il y a pu y avoir avec Paul dans le passé, des années plus tôt. On va voir un petit peu ce parcours. Marc s'est converti au Seigneur, il faisait partie des premiers disciples. C'était le cousin de Barnabas, on le sait. Et dans le premier voyage missionnaire, il a accompagné, pas longtemps, très peu de temps, il a accompagné Paul et Barnabas. Les difficultés n'ont pas tardé à venir, il y a eu de l'opposition au ministère et à la prédication de l'Évangile. Paul et Barnabas ont connu des oppositions et Marc a été témoin de ces choses-là. Et alors qu'ils s'apprêtaient à continuer leur voyage missionnaire, Marc s'est séparé d'eux et retourné à Jérusalem. C'était trop difficile pour lui, trop compliqué. Celui qui aurait dû être une aide, Il nous a dit dans les Actes des Apôtres qu'il était une aide. Il était là pour aider Paul et Barnabas dans ce qu'ils faisaient. Mais à ce moment-là, il est parti. Et ils n'avaient plus cette aide. Paul et Barnabas n'avaient plus cette aide. Donc ils ont dû certainement faire certaines choses que Marc faisait aussi. Lorsque Paul et Barnabas, quelque temps après, alors qu'ils s'apprêtaient à faire un second voyage missionnaire, Marc a été un sujet de dispute entre Paul et Barnabas à tel point qu'ils se sont séparés l'un de l'autre. Paul ne voulait pas reprendre Marc. Non, il nous a fait faux bond. Il va encore être, excusez-moi l'expression, un boulet. Hein, et voilà, on a besoin de quelqu'un de fiable. Il n'était pas utile. Et Barnabas, qui avait quand même du discernement, a insisté pour prendre Marc. Et cela a créé un conflit entre Paul et Barnabas à tel point qu'ils se sont séparés l'un de l'autre. Les années ont passé et bien des années ont passé. Et là, il va dire à Timothée, prends Marc et amène-le avec toi car il m'est utile pour le ministère. Celui qui s'était avéré un moment inutile, pour différentes raisons, la peur, la lâcheté, la timidité, ou je ne sais trop quoi encore, peut-être le manque de maturité, il était très jeune à ce moment-là, peut-être tout simplement ça, en effet, s'est avéré utile plus tard. Vous savez, notre Dieu est celui qui nous donne toujours une possibilité de rebondir. Amen. Et si nous avons échoué et qu'à nos yeux, nous avons été vraiment inutiles, puissions bien comprendre que le Seigneur nous tend toujours la main et qu'il nous donne toujours la possibilité de redémarrer en étant utile à son œuvre. Alléluia. Oui, peut-être nous nous sommes égarés parfois dans des choses vaines. Nous avons mis peut-être le pied à l'étrier ou la main à la charrue pour reprendre l'image de Jésus et puis nous avons fait marche arrière, peut-être. Mais comme Marc, nous pouvons maintenant, utile au ministère de l'œuvre de Dieu, au ministère de l'Église, alléluia, puissions-nous avoir ce cœur comme l'apôtre Paul qui saura, il faudrait approfondir cette histoire bien sûr, qui saura, même pour lui, considérer que peut-être il a fait une erreur vis-à-vis de Marc et quelque part le reprendre au service parce qu'il est utile au ministère, parce qu'il est utile au ministère. Nous avons besoin de considérer que l'œuvre de Dieu est immense, que ce qu'il y a à faire dans l'œuvre de Dieu est colossal. Et que chaque main est la bienvenue. Chaque main est la bienvenue. Puissions-nous nous mettre à l'œuvre. Alléluia. Alléluia. Afin, tout comme Onésime et tout comme Marc, de passer de l'inutilité à l'utilité entre les mains du Seigneur. Que son nom soit glorifié. Lui qui nous veut fidèles. Lui qui nous dira un jour, entre dans la maison, dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, mais je te confierai beaucoup. Alléluia. Oh, merci Seigneur pour ton œuvre encore. Fais ton œuvre dans nos cœurs, Jésus. Fais ton œuvre, afin que nous soyons ces instruments utiles, ces vases utiles dans la maison de Dieu. À lui seul soit toute la gloire. Amen.